je me présente. Oui. Parce que tu sais pas les éléments de la présentation, c'est compliqué.
Je suis obligé de parler de 3 éléments. Mais
c'est... Bon, bah, je suis très heureuse de vous rencontrer. Merci de m'inviter. Donc, je m'appelle Agnès de la Marzelle, je suis consacrée dans la communauté de l'Emmanuel. Je suis prof de théologie biblique au Bernardin. Voilà. Et sinon, de ma première formation, je suis prof de lettres. Avant de continuer l'étude des textes en m'intéressant aux textes les plus intéressants. Voilà. Alors moi, je ne sais pas trop ce que ça mange, l'état là. Mais du coup, je vais vous dire un peu comment ça s'est fait. Au début, donc, Étienne m'a dit qu'il y avait un parcours sur la sainteté. Et à la base, on avait un peu pensé que je viendrais parler d'une figure de sainteté biblique. Voilà. On avait pensé à Saint-Joseph, Marie de Magdala, qui est une figure centrale dans ma thèse. Et finalement, j'ai fait tout autre chose. Voilà. Donc, en dialogue aussi avec Étienne, je me suis dit, un parcours sur la sainteté dans une aumônerie, ben, le but, c'est trop bien de regarder des saints, mais c'est encore mieux de devenir des saints. Donc, moi, je trouve ça trop beau dans toutes les figures de saints que vous avez vues, en scrutant la sainteté dans l'Ancien Testament, en regardant une mère Teresa. C'est sûr que la sainteté nous attire parce qu'on est fait pour ça. Et moi, ce dont je voudrais parler, du coup, c'est de l'Esprit-Saint qui fait de nous des saints. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un autre genre littéraire. Du coup, je viens pas du tout comme prof de Bible, en fait. Je viens comme quelqu'un qui va partager très simplement notre chemin vers la sainteté, tous ensemble, à la suite du Christ. Voilà. Alors, je vais tout simplement... En fait, filer une métaphore, c'est la métaphore de la grande traversée, de la voile. Parce que toute notre vie, c'est ça, c'est de nous laisser saisir par l'Esprit-Saint pour devenir ce que nous sommes. Voilà, des saints. Alors, dans un parcours sur la sainteté, vous avez déjà regardé quelques petites figures... Il faut vraiment qu'on prenne le temps dans notre prière de nous laisser saisir par ces figures de sainteté, parce qu'on a devant nous des gens qui ont ouvert tout grand la porte à l'Esprit-Saint. Et de toute leur force, ils ont voulu dire oui à Dieu, et donc ils ont permis à Dieu de faire ce pour quoi il nous a créés. Et c'est tellement fou, moi j'aime bien commencer par un contraste entre si dans votre cœur, là, vous regardez Mère Teresa... Jean-Paul II, vous voyez des humanités totalement déployées, quoi. Il y a une consistance de notre humanité qui est profondément honorée par ceux qui livrent toute leur humanité à l'Esprit-Saint. Et alors, elle peut être déployée, elle peut devenir ce pour quoi elle a été façonnée. Et en contraste, on peut regarder que nous... Oui, nous aussi, ou bien des personnes qui n'honorent pas vraiment leur humanité. Je sais pas, moi, je prends un drogué ou quelqu'un qui se laisse... le contraire de la liberté, quoi, qui se laisse asservir. Ou bien nous, parfois, on vit à un autre niveau que nos plus grandes aspirations, que on se laisse un peu vivoter. Et donc là, l'idée de ce petit topo, c'est d'allumer dans nos cœurs le désir de vivre... au niveau de profondeur de ce pourquoi on a été fait, quoi. Et ma question, la question que je nous plante dans le cœur, c'est comment engager notre liberté dans le sens de ce qui peut seul nous combler. Comment je vais engager ma liberté pour trouver ce chemin de fécondité, de bonheur, qui est ce que Dieu a voulu pour moi en me créant, en m'inventant. Voilà, donc c'est vraiment mon seul objectif pour ce soir. Comme dit Saint Ignace, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui nourrit le cœur, mais c'est de goûter intérieurement. Donc moi, ce soir, je ne suis pas tellement venue pour vous apprendre plein de choses, mais plutôt pour qu'on se resitue dans ce désir qui est le désir le plus profond de notre cœur. Voilà, donc il y aura deux parties, tout simplement. Je vais passer un premier bon temps sur la coque de notre embarcation, c'est-à-dire que si on veut voguer, aller au large, il faut déjà qu'on ait une coque un peu solide. Et puis la deuxième partie, ce sera, ben, une fois qu'on a la coque, on pourra hisser les voiles et voguer. Alors qu'est-ce que c'est que notre coque ? Qu'est-ce que c'est que la coque de notre embarcation ? C'est sûr que moi, si on me dit qu'on part et qu'on m'embarque sur une petite coque de noix qui prend l'eau à un pauvre ado, etc., j'ai pas envie d'y aller, quoi. J'y vais pas. Pour pouvoir m'embarquer dans cette grande aventure de la vie dans l'esprit, il faut que j'ai une confiance aveugle dans la solidité de l'embarcation qui va me prendre en elle. Il faut que j'ai une confiance totale et que je ne peux pas me donner à moi-même. Et cette confiance totale, c'est elle-même un don de l'Esprit-Saint. C'est un don de Dieu. C'est le fruit de l'expérience de l'amour de Dieu pour moi. Si je veux vraiment m'embarquer dans la grande aventure de la vie dans l'esprit, eh bien, si, voilà, ça veut dire que je vais quitter mon canapé, ça veut dire que je vais quitter plein d'autres trucs qui, humainement, sont hyper rassurants. Pour faire cela, ma coque, c'est l'expérience de l'amour de Dieu pour moi. Donc ça, c'est mon premier petit point pour méditer sur ce que c'est que ma coque. J'ai appelé ça l'expérience fondatrice, Dieu est amour. Dieu est amour. Alors je vais vous raconter pour ça, je vais prendre deux petits témoignages. Un témoignage extraordinaire et un témoignage ordinaire. Parce qu'à force de prendre des témoignages extraordinaires, on croit que c'est pas pour nous. Alors le premier témoignage extraordinaire, il est situé au Goulag. C'est pour ça qu'il est extraordinaire, parce que nous, on n'est pas au Goulag pour le moment. Et donc, c'est un type qui s'appelle le docteur Bernard Pie, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Dachau, mon baptême ». Et je vais juste vous lire une petite partie de son témoignage. Donc, le type explique, donc c'est un docteur, donc il a 19 ans à l'époque, il vient de se faire déporter, il a 19 ans. Et il a un aumônier avec qui il parle régulièrement, etc. Et l'aumônier lui dit des trucs du genre « faut faire confiance qu'il me mette en crise », parce qu'il dit « mais vous êtes gentil, il a Dachau, quoi ». Donc le type qui commence à lui parler de l'amour de Dieu et de la confiance, ça l'énerve vraiment très fort. Puis bon, il fait tout un petit chemin, etc. Et puis, à force de discuter, quand même, l'aumônier, c'est pas complètement perdu, hein, parfois ce qu'on fait comme aumônier peut-être, mais en tout cas, à un moment, il commence à faire du chemin. Mais il dit, là, il y a un truc que je ne peux pas, ça me fait vraiment partir en crise, c'est quand on crie au radis. Alors, ils disent le mot en allemand, mais comme je ne parle pas allemand, je préfère pas dire le mot parce que vous n'allez pas le reconnaître. Donc, mettons, il dit, il crie au radis, et là, il dit énorme angoisse, parce que ça veut dire, alors qu'on est complètement dénutri, hyper maigre, etc., ça veut dire que pendant des kilomètres, on va marcher en étant dénutri, avec tellement froid que tu as tes mains complètement gelées, etc. Et quand tu arrives et que tu as les mains complètement gelées et gercées, tu dois... déterrer les radis, etc. Enfin, c'est vraiment pour lui la pire des angoisses. Et donc, il dit, ben voilà, à chaque fois qu'il y a ce cri au radis, je me sens complètement saisie par l'angoisse et j'arrive plus, ton histoire de confiance, là, au aumônier, j'arrive pas. Donc, et puis voilà ce qui se passe un jour. Donc c'est une histoire vraie, évidemment, c'est un témoignage. Le combat était inévitable. Au radis, m'y voici, j'en frémis. Puisque mes obsessions se sont focalisées sur cette épreuve, l'ordre m'oblige absolument à demeurer serein, sinon je serai un déporté vaincu et sans excuse. D'abord, je commence par sourire. Ensuite, je me tourne intérieurement vers le Père et j'attends. Pendant que nous marchons, je le regarde toujours. Je ne le vois ni ne l'imagine, simplement le nord de ma boussole est fixé sur sa personne, toute bonté. Je n'ai rien à lui dire ni à demander, il sait tout. J'avance, kilomètre après kilomètre, d'abord résistante à la peur, en tenant sa main, puis facilement, sans crainte. Alors, comme une marée descendante, la peur se retire. Chaque pas devient un présent ensoleillé, il m'accompagne de tout près, je suis isolée en lui. Ce qui m'arrivera au cours de la marche m'indiffère, la tendresse l'emporte sur la frayeur, qui se noie et la mer se calme. Quand nous arrivons au champ des radis, je suis paisible, je ne pense ni au travail ni au retour. J'ai vérifié que l'acte de confiance a entièrement chassé l'appréhension. Je suis certain d'être aimé concrètement, par une personne en laquelle j'ai remis ma terreur. Je suis un débutant émerveillé et heureux. Oui, en ce moment, défi relevé et de ce fait possesseur de l'essentiel, je suis heureux avec force et calme. Je sais que cet acquis sera durable. L'orientation est prise, le rétablissement réussi, je n'ai plus peur de rien, j'ai essentiellement confiance. Ce jour-là est le plus important de ma vie. Voilà, ce que je trouve très beau dans ce tout petit témoignage, c'est qu'on le voit très très bien, ça c'est Nicolas Butet par exemple, il a tout le temps des histoires de goulag, mais c'est vrai, moi aussi, quand j'étais en Cannes, j'ai beaucoup lu des trucs en histoire là, sur les communistes chinois, etc. Et c'est vrai que dans ces lieux tellement épouvantables, on voit les pépites de sainteté en 3D, tellement c'est frappant. Donc là, ce qu'on voit, c'est le moment où ce type a ouvert la porte à l'Esprit-Saint. Et je trouve qu'on voit, on voit bien dans son récit, c'est qu'il a simplement ouvert quelque chose, il s'est rendu disponible, et il dit bien, la peur se retire, et il est comme rempli d'un don dont on voit bien qu'il ne vient pas de lui à cause des circonstances. Donc je trouve que c'est toujours intéressant dans des témoignages un peu extraordinaires de voir cette puissance-là pour pouvoir la vivre, nous, dans nos petits trucs. Voilà, donc ça c'est la première histoire. Là, ce jour-là, le type, il a trouvé sa coque. Ça veut dire qu'à partir de cette expérience, il peut tout traverser. Là, on le voit bien, il reste dans son goulag, il peut tout traverser. Parce qu'il a cette expérience intérieure, il a trouvé son rocher intérieur, quoi. Moi, j'appellerais ça, parce que tout au long de ce petit topo, je vais un peu revisiter les différents dons de l'esprit. Celui-ci, je l'appellerai le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est le plus important au fond. Celui, quand on le reçoit, on a tous les autres. C'est de découvrir le dessein de bonté de Dieu pour chacun de nous, à travers tout ce que nous vivons. C'est ça le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est Dieu qui vient dans l'histoire des hommes, qui vit avec nous, qui nous fait goûter la présence de Dieu et le fait que oui, il y a un dessein de Dieu qui saisit tout ce que nous vivons pour accomplir son dessein. Le don de sagesse, c'est vraiment le don merveilleux. Sagesse, sapere, c'est la saveur de Dieu qui accomplit son dessein dans les courbes de ma vie. Alors, maintenant, je vais aussi prendre un exemple plus normal que quelqu'un qui est au goulag pour dire que c'est proche. Donc je vais me permettre de dire simplement un tout petit passage, entre guillemets, un tout petit moment qui m'est arrivé dans mon propre témoignage. Mais en fait, ce que je vais raconter, c'est pas long, mais c'est juste le rocher de ma vie, quoi. Et donc je vous raconte ma propre coque. Voilà. Donc moi, c'était en 2002, donc j'avais plus ou moins votre âge et plus ou moins le même genre de vie que vous. Et donc, je suis partie dans le désert du Sinaï pendant 10 jours, avec beaucoup de silence. Et donc, le prêtre nous avait... Donc, on se levait le matin hyper tôt, dans un cadre de toute beauté. Enfin, c'était extraordinaire. Un climat de fraternité étonnant. Voilà, donc vraiment, on est un peu mis à part de notre vie. Ou moi, dans ma vie, à l'époque, j'habitais à Paris, il n'y avait juste pas une seconde de silence. Donc, une mise à l'écart. Et... Le prêtre, donc très tôt le matin, on commençait par une petite louange, petite exhortation, et il nous avait appris la prière du cœur. Et bon, ça c'est vraiment le trésor de ma vie, la prière du cœur. Et donc c'est tout simple, on partait en silence comme ça, et pendant des heures, on marchait, donc dans ce cadre, c'est un désert de roches, des couleurs qui n'arrêtent pas de changer, enfin, c'est vraiment mythique. Et on répète tout doucement, au rythme de la marche et de la respiration, une petite prière du cœur. Donc la prière du cœur de base, vous la connaissez, c'est celle du pèlerin russe. Donc j'ai commencé comme ça. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et on répète toujours la même, comme ça, pendant des heures. Et je vous donne ce cadeau pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que d'abord, j'ai vu beaucoup de conversions grâce à ça. Mais surtout, c'est un cadeau parce que ça nous fait passer du cerveau au cœur. Et en fait, je remarque que quand on veut se mettre en silence, on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas de silence dans notre tête, c'est difficile. Et que le fait de prendre cette petite prière où on répète le nom de Jésus, comme ça, longtemps, ça crée en nous un espace de silence, où Dieu crée lui-même le silence, et surtout, un espace où il peut parler. C'est vraiment très, très impressionnant. Et voilà. Et donc moi, je suis arrivée dans ce pèlerinage, j'allais très bien. Et en fait, très vite, grâce à cette prière du cœur qui, vous savez, c'est un peu comme la goutte d'eau sur la roche. Tac, 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 elle te creuse. Et en fait, j'ai reçu très vite une grâce très douloureuse au début. Tout à coup, mais c'était comme s'il m'apparaissait dans ce bain d'amour de la création, de ce pèlerinage, de la vie fraternelle, enfin de tout ce que j'entendais. Tout à coup, j'ai fait l'expérience que... Enfin, j'ai reçu une très grande grâce de contrition. Je me suis rendu compte que toute ma vie était tournée vers moi, que c'était voilà, ma réussite, mon prochain voyage, mon prochain concours, je sais pas quoi. Donc cette expérience, vous voyez, de vérité, en fait, de lumière, sur ma vie, qui avait soif de beaucoup plus que tout ce que je vivais de très chouette par ailleurs, en fait. Une soif de beaucoup plus. Voilà ce qu'a creusé en moi la prière du cœur. Et en fait, cette prière, dans l'Esprit Saint, justement, elle bougeait. Et après, pendant des heures, j'ai prié, Seigneur, donne à mon cœur les dimensions du tien. Vous voyez, c'est comme si je laissais le désir que le bon Dieu il a planté au cœur de sa création. J'y avais enfin accès. Et du coup, j'ai vraiment crié vers Dieu et j'ai prié comme ça. Seigneur Jésus, donne à mon cœur les dimensions du tien. Et donc cette expérience qui était à la base douloureuse de contrition, elle s'est petit à petit transformée, c'est la grâce d'un pèlerinage, dans une... voilà, j'étais vraiment remplie d'une joie, d'une paix extrêmement profonde. Et donc voilà, je raconte pas plus de détails, mais juste pour vous dire que je vois bien que j'ai à ce moment-là trouvé ma coque. Et ce que je veux vraiment dire par cette coque, c'est ce genre de moment où on a trouvé pourquoi on est sur cette terre. Mais pour avoir une vie qui a du poids. Et en fait, bon voilà, après je suis rentrée à Paris, ma vie a profondément changé, j'ai commencé à beaucoup prier, etc. Peu importe, mais voilà, c'est cette expérience de l'amour de Dieu qui me connaît tellement et qui veut tellement grand pour moi que ma vie en était transformée, quoi. Voilà. Et je dois dire que cette expérience de la coque, alors évidemment, dans chacune de nos histoires, ce sera différent. Pour certains, c'est un événement très fort. Pour d'autres, c'est dans un cheminement progressif, de plus en plus profond, etc. Chacun en a notre histoire. Mais en tout cas, je vois bien, ça fait des années que je suis au service des jeunes, et je le vois sans cesse, ce moment où je vois des jeunes qui ont trouvé le cap de la sainteté et qui ont trouvé leur coque, c'est « Je m'embarque avec toi, Jésus, et on va où tu veux. » C'est tout, quoi. Voilà, je le vois beaucoup. Et je vois des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui se dilatent, qui s'ouvrent. Enfin, vraiment, c'est leur humanité, leur liberté s'ouvre dans ce moment, dans cette... Oui, voilà, une liberté qui se... Vous voyez, une liberté qui s'enclenche. Parce qu'elle a trouvé son orient. En fait, c'est ça que je vois et qui m'émerveille beaucoup. Une liberté qui est saisie, qui est libérée parce qu'elle a trouvé ce qui peut la mouvoir. Voilà. Alors, pour ce deuxième petit point, vous voyez, donc j'ai pris deux petits exemples tout simples de cette histoire de coque. Et le deuxième petit point de cette première partie, c'est... Donc j'ai écrit « L'Esprit Saint répandu dans nos cœurs, Dieu plus intime à moi-même que moi-même ». Alors, je voulais juste préciser un truc. C'est que dans cette expérience initiale de ma coque, je remarque dans mon témoignage, mais dans tous les autres que je découvre, qu'il y a, dans cette expérience qui est notre roc de confiance en Dieu, il y a une expérience très forte que... Ma liberté n'est pas en opposition avec la liberté de Dieu. Ça, je vois bien que ça fait partie de la coque. Tant qu'on voit Dieu comme une menace à ma liberté, on ne peut pas se jeter sur les flots dans l'aventure de la vie dans l'Esprit Saint. Et donc, il y a quelque chose de très profond. En tout cas, moi, je vois bien dans mon histoire que au Sinaï, j'ai rencontré le Christ. Je le lis en premier dans ma vie. mais je me suis vraiment aussi profondément rencontrée moi-même. Je suis revenue avec vraiment une grâce de liberté, y compris une liberté sociale, de pouvoir être moi-même, quoi. Et ça, voilà, ça fait vraiment partie de la coque, c'est de découvrir que Dieu, non seulement n'est pas une menace pour ma liberté, mais bien plus, il est tout sauf une menace, il est celui qui va permettre à ma liberté d'atteindre ce pourquoi elle a été créée. Alors je vais juste vous citer un petit passage de Maurice Zindel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit bouquin tout simple que je vous conseille, ça s'appelle « Je parlerai à ton cœur ». Voilà ce qu'il dit. « Vous n'êtes pas interchangeables. Vous avez chacun un visage qui ne peut pas être reproduit. Vous avez chacun reçu de Dieu quelque chose qu'il n'a donné qu'à vous. Vous êtes reliés à Dieu par un secret unique qui n'a été confié qu'à vous seul. Et Dieu nous regarde chacun comme si nous étions le Fils unique, parce qu'il y a entre lui et nous, et c'est là le secret de notre création, une confidence qui constitue justement notre personnalité. Parfois, on croit que si on se donne à Dieu, on va perdre notre personnalité. C'est fou, quoi. En fait, ce qu'on va perdre, c'est notre personnalité au sens psychique du terme, c'est-à-dire ce qu'on s'est carapacé, ce qu'on s'est construit pour être comme il faut. Mais Dieu me donne accès à ma personne. Il me donne accès à qui je suis, bien au-delà de cette personnalité qui est plutôt un fruit de déterminisme. Voilà. Pour bien prendre place dans la coque de notre bateau, ce qu'il faut demander à l'Esprit-Saint, c'est d'être guéri de nos peurs de Dieu. Il n'y a pas de piège. Dieu n'est pas une menace pour ma liberté. Je suis de plus en plus libre. Les amis de Jésus sont tellement libres. C'est pour ça que je les trouve si beaux. Je ne connais pas de personne plus libre que Jean-Paul II. C'est ça qui les rend si attirants. C'est leur liberté qui leur a été rendue par le Christ. En réalité, cet amour de Dieu, Dieu nous voit, il nous voit dans ce secret qu'il a lui-même caché au fond de notre être. Et quand on est sous le regard de Dieu, quand on est sous le regard de Jésus, eh bien, Jésus nous voit toujours plus profond que nos péchés, que nos carapaces. Il nous voit tels que nous avons été créés. Et ça, c'est la petite citation que je vous ai mise. Ce qui est inouï dans le regard de Jésus et qui convertissait les hommes, c'est qu'enfin un regard était posé sur eux, qui était comme une eau vive, cette eau de l'esprit dans lequel ils renaissaient, dans lequel ils n'étaient plus que tels que la volonté du Père les voit dans son dessein. Voilà. Dieu, loin d'être une menace, est celui qui me révèle qui je suis, mon origine la plus profonde, c'est pas mon péché. Il y a plus profond que mon péché, et c'est ce que voit le bon Dieu, c'est à partir de ça qu'on peut grandir et devenir qui on est. Alors, vous voyez toute l'importance de l'intériorité dans nos vies. Ça fait vraiment partie des choses au moment où je parle de la coque. Cette intériorité, c'est là où Dieu habite, et c'est à partir de ce cœur profond où Dieu a fait sa demeure que nous pourrons nous déployer, devenir le saint que nous sommes. Alors je vous redonne une dernière petite citation sur cette partie, donc de Maurice Zindel à nouveau, qui commente la conversion de saint Augustin. Donc Augustin, vous vous souvenez, il dit « Tu étais dedans, et moi, c'est moi qui étais dehors. » Et Zindel commente « Donc Dieu était toujours là, il était dans l'âme d'Augustin comme un appel, comme un ferment, comme une aimantation. C'est lui, Augustin, qui était dehors, distrait, arraché à lui-même, détourné de son âme et de sa vie intérieure par le plaisir, la vanité, les possessions dont il était encombré. » Enfin, lui aussi, malgré son génie, rivé à son petit monde égocentrique, emprisonné par ses attaches et incapable de découvrir la source qui l'attendait en lui. Nous aussi souvent, si souvent, nous sommes dehors. Mais heureusement, Dieu est toujours dedans. Et puisqu'il est dedans, nous allons joyeusement nous tourner vers cette eau vive et nous entretenir silencieusement avec ce Dieu caché en nous qui nous attend depuis toujours et qui va seul nous dire notre secret, car lui seul le connaît. Lui seul peut nous dire notre nom, lui seul peut nous faire franchir cette distance entre nous-mêmes et nous-mêmes. Vous savez, c'est la petite pierre blanche de l'Apocalypse. C'est cette pierre blanche que nous allons lire en la recevant de sa main, où nous lirons notre vrai nom qui est caché en lui, qui est toujours dedans et qui peut seul nous mener à la découverte de notre propre intimité. Voilà, donc ce premier point, c'était donc de trouver cette coque, cette espèce d'expérience intérieure hyper solide qui fait qu'on a le désir de s'embarquer avec quelqu'un qui nous aime tant et qui n'est pas une menace, mais au contraire notre père, en fait. Voilà, alors dernier point de cette première partie sur la coque, je voudrais quand même dire un mot sur qui est l'Esprit-Saint. Celui qu'on va essayer de prendre dans nos voiles, je m'arrête un instant pour voir qui il est. L'Esprit de Fils bien-aimé, l'Esprit du Fils bien-aimé a été répandu dans nos cœurs. Donc, bon, vous avez déjà, j'imagine, prié et appris, enfin, scruté qui est cette personne Esprit-Saint, la personne don dans la Trinité. Je trouve que le plus beau lieu scripturaire pour contempler qui est l'Esprit-Saint, c'est Jean 19. Donc, Jésus est le Fils, il est le Fils du Père, et donc de toute éternité, il reçoit tout du Père. Donc il reçoit tellement tout l'amour du Père que du coup, il peut se donner complètement. On n'arrive pas à se donner, en général, c'est parce qu'on n'est pas assez aimé. Mais Jésus, il est le Fils, il reçoit tellement du Père qu'il se redonne totalement. Voilà, ça c'est le mouvement de la Trinité. Et ce mouvement de la Trinité, Jésus, le Fils, pardon, est venu le vivre comme homme. Et là, c'est ce qu'on voit trop bien à la croix. À la croix, on voit que Jésus, qui n'a cessé dans l'évangile de Jean de se révéler comme le Fils du Père, il reçoit tellement cet amour du Père qu'il va pouvoir aimer les siens jusqu'au bout. Et donc, c'est ce qu'on voit sur la croix. Jésus, qui est le Fils, qui reçoit tout l'amour du Père, il aime jusqu'au bout, traversant la trahison de Judas, la trahison de tout le monde, les coups, les machins, et tout ce qu'on sait. Tout ce qui fait rage dans notre monde, Jésus se le prend en pleine existence. Et lui, il aime jusqu'au bout. Et à ce moment-là, Jean écrit, Jésus, inclinant la tête, quand il a tout fini, il incline la tête et il livra l'esprit. Et le mot qui est utilisé ici en grec n'est jamais utilisé dans la littérature hellénistique, jamais, ni dans la Bible, pour dire que quelqu'un expire. On ne dit pas comme ça en grec. Donc, quand Jean écrit « il livra l'esprit », vous comprenez que c'est tout cet amour que Jésus est en train de vivre, tout cet amour reçu du Père qu'il est en train de vivre, qu'il livre, il le livre. Pourquoi ? Ben dans le livre des signes, en Jean 7, il nous a expliqué pourquoi il livre cet amour. C'est pour que nous, on en vive. Qu'on puisse répondre à son commandement, l'unique dans Saint Jean, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, vous voyez, en Jean 7, Jésus avait dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, en Jean 19, ça y est, Jésus est glorifié, et il nous donne cet esprit. Pourquoi ? Mais pour qu'on s'approche, qu'on en boive, qu'on en vive, qu'on vive de cet amour qui n'a pas de limite. On boit l'Esprit Saint pour en vivre, c'est-à-dire pour être saisi dans la logique du royaume qui est d'aimer jusqu'à l'extrême. Voilà un petit mot sur l'Esprit Saint. Alors, Du coup, vous comprenez que c'est la puissance d'amour divine elle-même qui nous est donnée, qui est proposée à notre foi. Et en fait, nos désirs, ils sont à cette hauteur-là. Nous sommes créés pour cet amour-là, cette communion-là. C'est ça qui nous attire. Et on ne le vivra que par cette puissance d'amour divine qu'est l'Esprit répandu dans nos cœurs. C'est Dieu lui-même qui va aimer dans nos cœurs. Alors, notre part, quelle est-elle? C'est la foi, et c'est de nous rendre disponibles, de vouloir en vivre. Et c'est pour ça, vous avez remarqué que, pour parler de l'Esprit-Saint, à la différence du Père, à la différence du Fils, bon, le Fils, on a vraiment son visage, l'Esprit-Saint n'a pas de visage, et donc on utilise, vous avez remarqué, toute une série de symboles. Vous allez revoir dans le catéchisme, mais tous les symboles, ils ont tous en commun cela. C'est une attitude de réceptivité. Il s'agit d'accueillir ce don de l'Esprit-Saint en se rendant disponible, en se faisant tout réceptif à cet amour divin qui m'est donné pour que j'en vive. Donc regardons très très vite les symboles, mais voyez, pour parler de cette réceptivité. Bon, le plus banal, c'est celui de mon image, c'est un vent. Ben, le souffle, il te pousse, mais toi, comment est-ce que tu le connais, l'Esprit-Saint? Mais c'est parce que tu es mu. Tu es mu. Donc on va connaître très intimement l'Esprit-Saint, la personne don de la Trinité, par ses effets en nous. Ça, on le voit bien avec le vent. Ensuite, l'huile, on prend l'huile. Ben, l'huile, c'est, elle va oindre ma peau, elle va sentir bon. Il y a des gens qui sentent bon l'Esprit-Saint, il n'y a rien à faire. Avec tout ce qu'on est en train de vivre de traumatisme en ce moment, moi j'ai vraiment été percutée la semaine dernière, j'ai vacillé sur ma base, quoi, franchement. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est tellement enraciné dans le Christ, tellement mu par l'Esprit-Saint, que j'ai senti la bonne odeur de l'Esprit-Saint dans la stabilité de la joie de ce type, c'est fou, quoi, vous voyez. Donc l'Esprit-Saint, eh bien voilà, c'est une huile. Donc l'huile, c'est pas moi, mais alors ma peau en est transformée, elle sent bon, elle est fortifiée, elle est je sais pas quoi. Le sceau, ça se voit encore mieux. Le sceau, c'est bien quelqu'un qui m'a mis son sceau, mais c'est, il y a une impression sur moi, sur mon être, le sceau de mon baptême. Vous voyez, donc tous les symboles, ils disent bien que on a vu à quel point c'était immense le don de l'Esprit-Saint, et nous, notre boulot, c'est de l'expérimenter en étant réceptif à ce don jusqu'à ce qu'il nous pousse comme le vent, oigne comme l'huile, marque comme le sceau, etc. Que ma vie en soit marquée, qu'on voit les empreintes de l'action de l'Esprit-Saint sur ma vie. Bon, alors voilà, pour la première partie, je m'arrête là. On a notre coque. Maintenant, il faut hisser les voiles. Une fois qu'on est déterminé en fait à vivre cette vie où on va vers là où je cherchais, quoi. C'est ça que je voulais en fait, j'ai trouvé mon cap maintenant. Eh bien, je vais y aller. Alors, maintenant que j'ai ma coque, on va hisser les voiles, mais je voudrais encore poser une petite question, c'est quelles sont mes voiles? Dans quoi, si l'Esprit-Saint veut s'engouffrer dans ma vie jusqu'à me transformer et que ça se voit par les effets, eh bien, quelle voile je vais présenter à l'Esprit-Saint? Alors, évidemment que les voiles que je vais présenter à l'Esprit-Saint, c'est toute mon humanité. C'est toute mon existence. Vous savez que nous n'avons pas comme créature une liberté absolue. Nous n'avons pas une liberté absolue. Je n'ai pas choisi mon sexe, je n'ai pas choisi ma famille. Il y a plein de choses que je n'ai pas choisies, en fait. J'ai une liberté de créature. Elle est immense. C'est le plus beau trésor de ma vie. Mais je n'ai pas une liberté absolue. Et donc, il y a tout un travail, si on veut vivre la vie dans l'Esprit-Saint. D'abord, c'est d'accepter le matériel reçu. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint ne va pouvoir souffler que dans mon existence telle qu'elle est, avec mon histoire, mon physique, mon intelligence, mon parcours, tout ça. C'est dans cela que l'Esprit-Saint va souffler. Ça paraît rien, ça, et je pense que c'est une énorme clé, en fait. Soit je passe ma vie à me dire que ma voile, elle n'est pas comme il faut, elle n'est pas comme ceci, et donc je la laisse toute repliée, et puis les autres, ils ont une plus grande voile, et puis moi, je comprends, j'entends rien quand Dieu parle, je sais pas quoi. Ok, soit on reste dans Calimero et mon meilleur ami, et on a notre petite voile bien pliée, soit on livre à l'Esprit-Saint la voile qu'on a reçue du bon Dieu, telle qu'elle est, et c'est là-dedans. Il n'y a pas de vie dans l'Esprit-Saint ailleurs que dans l'Esprit-Saint qui souffle dans ta voile. Et ta voile, c'est tout ce que tu es aujourd'hui. Ça, je vous ai mis une petite citation que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle peut, elle peut vraiment nous aider. Du Père Jacques Philippe, qui s'appelle « La liberté intérieure ». C'est un petit bouquin tout simple, mais qui est très beau. « Bien souvent, ce qui bloque l'action de la grâce divine dans notre vie, ce sont moins nos péchés ou nos erreurs que ces manques de consentement à notre faiblesse, tous ces refus plus ou moins conscients de ce que nous sommes ou de notre situation concrète. Pour libérer la grâce dans notre vie et pour permettre des changements profonds et spectaculaires, il suffirait parfois de dire simplement oui, un oui inspiré par la confiance en Dieu, à des aspects de notre existence face auxquels nous maintenons une position de refus intérieur. Je n'admets pas d'avoir telle pauvreté, telle fragilité, d'avoir été marqué par tel événement passé, d'être tombé dans tel péché. Et sans m'en rendre compte, je stérilise l'action de l'Esprit-Saint. Celui-ci n'a pleinement prise sur ma réalité que dans la mesure où moi-même je l'accepte. L'Esprit-Saint n'agit jamais sans la collaboration de ma liberté. L'attitude juste face à Dieu est donc celle-ci, à la fois une acceptation très paisible, très détendue de nous-mêmes et de nos infirmités, et en même temps, un immense désir de sainteté, une forte détermination à progresser, fondée sur une confiance sans limite dans le pouvoir de la grâce divine. C'est hyper beau, non ? C'est vraiment très, très équilibré, je trouve, et très, très éclairant. Parce que il y a toujours quelque chose en nous qui nous dit « Ok, moi, je serai saint quand ceci. Je serai saint quand cela. Quand j'aurai réglé ça. Quand ceci, quand cela. » Non, c'est aujourd'hui que tu t'embarques. Si tu as découvert que c'était le trésor de ta vie de t'embarquer, embarque-toi maintenant, viens comme t'es, quoi, comme au maître de même. Voilà. Alors, oui, ça m'a fait penser, par exemple, à Jean-Paul II. Bon, j'aime beaucoup Jean-Paul II, c'est vrai. Mais, vous voyez, Jean-Paul II, il aurait pu dire au Seigneur, vous savez, quand il s'est pris la balle, là, même s'il n'est pas mort. Il aurait pu dire au bon Dieu, écoute Seigneur, c'est quand même pas malin, quoi. J'ai pas mal de travail comme pape. Et vous savez, après cette épreuve, il a toujours été beaucoup plus fatigable, très fatigué en fait, il souffrait dans son corps. Et bien Jean-Paul II, il n'a pas du tout dit ça au Seigneur. Seigneur, il faudrait que j'ai une autre voile pour être pape. Non, il n'a pas du tout dit ça. Et je pense que cette épreuve, bon, sans compter le fait qu'il a fait tout un chemin de pardon qui est tellement édifiant et tout ce qu'on sait, mais Jean-Paul II est quelqu'un qui a profondément accepté sa faiblesse. Il a pardonné à son meurtrier, comme vous le savez. Et en fait, le fruit, enfin, c'est un témoignage de la fécondité donnée par le bon Dieu, qui n'est pas la fécondité que nous, on imagine. Nous, on est toujours tout le temps dans l'efficacité, dans la, etc. Et là, on voit que la fécondité du bon Dieu, ben, ce n'est pas comme ça. Donc en tout cas, il a livré à l'Esprit-Saint cette voile-là, et Dieu sait quelle fécondité sa grande traversée a été. Voilà, donc en fait, ma voile, donc là j'ai dit par rapport à notre l'assomption de ce que nous sommes, mais il y a plein de choses. Il y a aussi que ma voile, c'est par exemple, est-ce que... alors moi, par exemple, dans ma vie professionnelle, je ne parle pas pour moi, mais je dis un truc en général, mettons ma vie professionnelle, moi je suis dans tel cabinet de machin, je travaille 15 heures par jour, donc tu comprends, j'ai pas le temps d'avoir la vie dans l'Esprit-Saint, etc. Mais en fait, si tu passes 12 heures de ta vie au boulot, il faudrait peut-être penser que c'est aussi là que tu vas vivre la vie dans l'Esprit-Saint. Vous voyez, donc c'est ça que je veux dire quand je dis on va livrer toutes nos voiles. Si vous me dites, bah tiens, bah, cette année je prépare la grecque, donc je ferai la vie dans l'Esprit-Saint l'année prochaine, mais c'est qu'on n'a rien compris en fait. C'est viens avec ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et je pense que préparer la grecque n'a empêché personne de devenir saint. Bon. Alors maintenant, une fois qu'on a notre coque, qu'on a accepté notre voilure, et bien maintenant, avec l'Esprit-Saint, il y a deux choses magnifiques. c'est que l'Esprit Saint est lumière, il nous donne notre cap. Et bonne nouvelle, il ne nous donne pas seulement le cap, il nous donne aussi la force motrice pour aller là où il nous donne. C'est lui qui le fait. Alors, première chose, j'ai marqué petit 2, recevoir le cap de l'Esprit qui souffle où il veut. Alors, ça c'est Abraham, quoi. Abraham, vous connaissez bien Genèse 12, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Voilà, je te dis pas où c'est, hein, parce que le but c'est qu'on s'embarque ensemble dans la confiance, tu verras où on ira. Donc en fait, le fait de recevoir son cap du Seigneur, ça demande une grande docilité intérieure. Tout simplement, c'est pas des grands trucs que je suis en train de vous dire, c'est hyper concret, hein, c'est de remettre toujours mes projets, de ne pas y tenir coûte que coûte. En fait, de le mettre dans la boucle pour tout, quoi. C'est ça, une vie en alliance. Donc recevoir son cap, c'est pas attendre sur ma chaise que j'ai une apparition pour savoir ce que je dois faire les prochaines, c'est pas du tout ça. Mais c'est sans cesse vivre, chercher cette lumière, se laisser éclairer par lui, tout lui remettre. Et ça va, et bien sûr, comme toujours, la lumière, elle nous est donnée dans le concret de nos vies. Alors, je voudrais vous présenter là rapidement, à ma manière, trois dons de l'Esprit qui ont un rapport avec le fait que l'Esprit-Saint nous donne sa lumière. La première chose, c'est le don d'intelligence. Le don d'intelligence. Vous vous rappelez, les disciples d'Emmaüs, il y a les disciples, ils ont assisté à l'histoire de Jésus, énorme fiasco sur la croix de celui en qui ils avaient mis leur espérance, et donc ils partent à l'envers de Jérusalem. Et Jésus va venir prendre leur pas, il les fait parler, et donc il n'y a que toi qui ne sais pas ce qui s'est passé, etc., il dit ça à Jésus. Et Jésus leur dit, quelle chose ? Il leur demande leur récit à eux. Et un récit, quel leur récit, quoi ? Quel récit qu'ils ont à ce moment-là, ils sont complètement déprimés. Bon. Et Jésus, à partir de leur récit, va leur montrer dans toutes les Écritures la cohérence du dessein de Dieu jusqu'à la croix. Vous voyez, Jésus, voilà comment il fait. Quand nous, on regarde l'actualité et qu'on est complètement déprimé, eh bien Jésus, avec les Écritures, va nous donner cette grâce de découvrir le dessein de Dieu qui s'accomplit dans cette écorce du réel si opaque. Voilà le don d'intelligence. C'est Seigneur, avec les Écritures, donne-moi la lumière des Écritures pour sortir du récit désespéré et rentrer dans le récit de l'espérance grâce à l'intelligence des Écritures. Donc, évidemment, comme j'ai dit, l'important, c'est nous, c'est de travailler notre réceptivité. Quelle est l'attitude de réceptivité qui va me permettre de recevoir tous les jours de ma vie le don d'intelligence ? C'est évidemment la fréquentation quotidienne de la parole de Dieu. Jusqu'à que cette parole de Dieu, elle marque tellement toute mon intelligence, toute ma manière de voir, que je me retrouve avec ce frère dont je vous dis qu'il y a une espérance incroyable tout de suite avec un événement douloureux. Donc, si on est vraiment pétri d'écriture, on aura ce regard éduqué par les Écritures, qui nous apprend à voir, derrière l'écorce, le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et pour être un cran de plus précise, plus concrète encore, parce que la vie spirituelle c'est très concret, eh bien, cette fréquentation quotidienne des Écritures, où je vais essayer de m'approcher des Écritures en y cherchant le Seigneur, quoi, gratuitement, le connaître les mœurs de la Trinité. Eh bien, il va nous falloir, avec Marie, garder dans notre cœur toutes les lumières que nous trouvons dans les Écritures, jusqu'à ce que nous soyons vraiment des êtres tapissés de l'intérieur des Saintes Écritures. Donc Marie mettait toutes ces choses dans son cœur, elle met les choses ensemble, elle en découvre l'intelligence, parfois elle ne voit rien à vue humaine, elle non plus, mais elle est connectée à l'intelligence du Seigneur parce qu'elle est... Et vraiment, il y a une chose qui est très féconde par rapport à ça, pour grandir dans le don d'intelligence, c'est d'écrire la parole. Chaque fois que j'ai une lumière dans ma prière quotidienne, j'écris la lumière que j'ai découverte. Je prends note, je garde trace. Comme c'est beau de voir après le chemin que le Seigneur me fait faire à travers les Écritures. Et c'est vraiment quand on sera tapissé comme ça par les Écritures qu'on aura aussi plus facilement d'émotions de l'Esprit-Saint. Vous voyez, par exemple, vous allez voir quelqu'un et vous avez la bonne parole parce que vous êtes pénétré d'Écriture. L'Esprit-Saint, il va pouvoir se servir de tout le réservoir de ma mémoire spirituelle pour avoir une parole qui me remet dans l'espérance ou qui redonne l'espérance à celui qui me parle. Oh là là, c'est la catastrophe au niveau du timing. Bon. Alors, deuxième don par rapport à la lumière, le don de conseil. Non, je voulais dire un autre. Le don de science, d'abord. Le don de science, c'est que le Seigneur ne me parle pas seulement dans les Écritures. Le don de science, c'est que le Seigneur me parle aussi à travers toutes les créatures. Donc, par exemple, le don de science, il me permet de découvrir dans les créatures un reflet du Créateur. Voilà, je pense que les scientifiques parmi vous sont sans doute sensibles à ça aussi. Mais en tout cas, moi, qui ne suis pas scientifique, je vois bien que quand je prends le temps d'aller me promener dans la nature, d'aller faire une balade en forêt avec le Seigneur, et je vois bien à quel point c'est important pour vivre la vie dans l'esprit, c'est-à-dire une vie qui avec une intériorité, quoi. Donc l'importance de la créature, de la création. Et bien sûr, le Seigneur me parle aussi énormément à travers les créatures que sont les autres êtres humains, quoi. Les frères et sœurs, les relations, les rencontres. La communion ecclésiale, c'est aussi un lieu incroyable pour connaître le Seigneur. Le don de science, c'est de découvrir dans les créatures un reflet du Créateur. Et là aussi, Dieu me parle. Dieu me parle. Et enfin, bien sûr, le don de conseil. Le don de conseil, pour le dire avec Alphonse Gilbert, il dit comme ça. Donc, bien sûr, il y a la vertu cardinale de prudence. Hein, bien sûr, quand j'ai une décision à prendre, je vais réfléchir, je vais consulter la bonne personne, etc. Mais voilà comment il articule la vertu et le don de l'Esprit-Saint. Alors qu'on se débat dans l'incertitude, le don de conseil, l'Esprit-Saint, suggère la décision à prendre pour soi ou pour d'autres, soit directement, soit indirectement. La paix et la certitude intérieure qui accompagnent le choix définitif sont la marque de sa présence. Donc le don de conseil, je l'ai mis dans ce désir de trouver mon cap, c'est que dans la vie, on passe notre vie à avoir des décisions à prendre. Et donc, à nouveau, j'exerce bien sûr la vertu de prudence, mais si je supplie le Seigneur, on voit bien, c'est très clair, par exemple, dans les questions de vocation, etc., il y a un moment où l'Esprit-Saint, heureusement, c'est pas seulement une question de prudence, c'est pas rationnel de choisir la vocation. Ça n'a pas rien à voir. Mais en tout cas, le don de conseil, c'est ce don qui me permet de discerner ce que le Seigneur me demande à moi. C'est pas que ce soit bien en soi, mais dans le don de conseil, je reçois la lumière du Seigneur qui me dit « Pour toi, ça va vers là. » Alors, une fois qu'on a le cap, petit point suivant, c'est « Il faut qu'on ait la force. » Serrer le vent au plus près pour avancer par la force de l'Esprit-Saint. Vous savez que la volonté, c'est pas un muscle qu'on tend comme des malades pour faire un truc qu'on a trouvé bien. La volonté, elle est forte quand elle est saisie dans l'amour. Et c'est pour ça que l'Esprit-Saint donne une force étonnante, parce que l'Esprit-Saint est amour, et donc il nous donne d'être attiré par le bien que je cherche profondément. Et il va m'en donner la force, parce que c'est la dynamique de l'amour. Alors, ce que je trouve très beau avec le don de force, c'est que si c'est un don de l'Esprit-Saint, il nous donne la force de faire ce que le bon Dieu nous demande, parfois ça dépasse nos capacités, honnêtement, enfin, en fait, la plupart du temps. Mais je pense par exemple à Benoît XVI. Quand il a accepté de devenir pape et qu'il dit « Messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple et humble serviteur », le fait que le Seigneur sache travailler et agir également avec des instruments insuffisants me console et surtout je me remets à vos prières. Mais ce n'est pas du tout de la fausse modestie. Pourtant, Benoît XVI, c'est quelqu'un d'énorme. Mais il a raison de dire qu'il est insuffisant pour la tâche. Personne n'est capable d'être pape. Donc c'est dans ce genre d'exemple, on le voit en gros, mais le don de force, c'est le Seigneur qui donne la force de faire ce qu'il nous a montré, qu'il nous demandait, et qui, la plupart du temps, enfin, qui souvent dépasse nos forces humaines. C'est comme pour Marie, et là, je voudrais parler du don de crainte. Vous voyez, Marie, imaginez-vous, l'ange arrive et lui dit « Tu vas être la mère de Dieu. Tu vas être la mère du Seigneur, l'Esprit-Saint viendra sur toi, etc. » Pas de problème, j'ai les capacités. Je suis tout à fait câblée pour ça. T'inquiète, Gabriel, ça va se passer. Non, mais attendez, c'est impossible. Mais la différence entre Marie et moi, c'est qu'elle, elle a le don de crainte. Vous voyez, le don de crainte, c'est ça. En fait, le don de crainte, c'est qu'elle est saisie par la transcendance du Seigneur et par l'œuvre de Dieu qui la dépasse tellement. Mais elle, sa question, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi, est-ce que je suis capable? Comment je vais faire? C'est pas ça, sa question à Marie. La question de Marie, c'est comment cela va-t-il se faire? Comment tu vas faire, Seigneur? Vous voyez, le don craint, c'est ce don qui nous permet de découvrir que c'est le dessein de Dieu. Donc, si c'est le dessein de Dieu, ben, il va le faire. Voilà. Donc ça, c'est le don de crainte, je l'avais mis à la charnière entre la lumière et la force. Le don de crainte, c'est de m'en remettre à celui qui va le faire en moi. En moi, je n'ai pas dit avec des marionnettes. Hein. En se déployant dans ma liberté et dans ma faiblesse. Donc on voit qu'il y a un lien très fort entre ce don de force et notre pauvreté. C'est Jean 15. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est une audace qui s'appuie non sur mes forces, mais sur le Seigneur. Alors, ici encore et comme toujours, hein, toujours nature et grâce, mais évidemment, il ne fait rien sans nous. Le don de force, ça n'empêche pas que je vais exercer mes vertus, que je vais faire tout mon petit possible. Je vais faire tout mon petit possible. Comme dit la petite Thérèse, je vais lever mon petit pied. Tu dois lever ton petit pied, la petite Thérèse. Et le Seigneur, il fera tout le reste. Et si tu ne lèves pas ton petit pied, ça ne marche pas. Donc, il y a cet élan très fort de l'Esprit-Saint qui entraîne la vie des vertus, et je dirais réciproquement que la vie des vertus nous rend disponible à l'Esprit-Saint. Donc c'est vraiment nature et grâce ensemble, mais évidemment que c'est le bon Dieu qui fait... enfin, c'est 100% les deux, quoi. Mais c'est quand même le bon Dieu qui fait, quoi. Voilà, alors pour terminer, mon petit 4, j'ai intitulé « Avoir le cœur au voyage, les trois incontournables du marin disponibles au souffle de l'Esprit-Saint ». Alors, je vais essayer d'aller vite sur ces trois petits points. Bon, ben, c'est tout simple en fait. Si c'est l'œuvre du bon Dieu qui se fait, il faut absolument rester branché à la croix de Jésus. Parce que c'est là que l'Esprit-Saint jaillit. Donc, où est-ce qu'on a l'Esprit-Saint qui objectivement est donné en surabondance autant qu'on a besoin? Mais bien sûr, c'est la vie sacramentelle. Donc, il faut qu'on apprenne, si on veut vraiment partir pour cette grande aventure de la sainteté, il faut qu'on apprenne à puiser humblement, petitement, mais à fond dans tous les sacrements. Vous savez, parfois, on est un peu comme... Vous connaissez l'histoire avec Naaman le Syrien, là, l'histoire du bonhomme qui dit « Eh oh, tu me dis d'aller me baigner dans le fleuve ?» Tu me prends pour un... Tu me prends pour qui, là? Il y a des fleuves aussi chez moi, c'est énervant, quoi. Ben, nous, on est pareil. Attends, c'est trop simple, il faut aller à la messe, manger ce petit bout de pain. Ça nous paraît si simple, c'est si pauvre, c'est si dépouillé. Qu'on puisse pas, quoi, du coup. On puisse pas bien, on puisse pas assez. Il faut qu'on puisse être plus de foi. Si on savait tous ces flots d'Esprit-Saint qu'on reçoit dans l'Eucharistie, ben, on irait peut-être communier différemment. Voilà, donc c'est tous les sacrements, je ne peux pas tous les redire, mais évidemment, le sacrement qui se déploie dans tout ce que je suis en train de raconter, de cette grande traversée, c'est bien sûr mon baptême. J'ai tout dans mon baptême, j'ai tout dans le baptême et la confirmation, et simplement, il s'agit de le laisser se déployer, il faut en vivre. Alors, le deuxième petit point, c'est la prière continuelle. Prier sans cesse, rester connecté. Vous voyez, c'est la vie de prière, c'est à la fois des temps qui sont réservés au Seigneur, sinon il ne peut rien se passer. On ne peut pas avoir de vie dans l'Esprit-Saint sans ça. C'est nécessaire de préserver un espace, comme pour toute relation en fait. Moi, je n'ai pas de relation dans ma vie avec des gens que je vois moins d'un quart d'heure quand je les vois. Salut ! Salut ! fait pas ça avec les vrais gens, quoi. Donc voilà. Donc avoir un vrai temps où on peut se poser pour se connaître. Donc ça, c'est la vie d'horizon qui se poursuit tout au long du jour en essayant de revenir à la source en moi, toujours disponible, où je peux puiser tout ce dont j'ai besoin pour vivre ce qu'il me demande. Et le troisième petit point que j'ai mis comme incontournable, c'est les petits sacrifices, les petits renoncements, c'est-à-dire le désir éprouvé de se convertir, avec beaucoup de douceur. Mais dans les petits renoncements, ma liberté se mouille et je montre que je préfère la volonté de Dieu, que je choisis la dynamique de l'amour. Donc voilà, les petits sacrifices, on n'a pas de mal à les trouver, il y en a plutôt trop passé dans une journée à mon avis. Mais en tout cas, on peut s'en servir pour choisir la dynamique de l'amour, pour dire notre préférence, pour dire notre cap, pour nous dire qu'on veut cette vie embarquée dans la grande traversée. Voilà, alors en conclusion, j'ai choisi deux paroles, parce qu'il faut toujours avoir des paroles dans le cœur pour la route. Je vous livre mes deux paroles préférées, j'en sais rien en tout cas aujourd'hui. Alors la première, c'est Abba, Papa. C'est-à-dire que cette grande traversée de la vie dans l'Esprit Saint, c'est pas une croisière, quoi, c'est pas le Club Med, mais c'est une grande et belle traversée avec le Seigneur, c'est une Pâque vers le Père. Donc c'est exigeant et je sais pas quel mot dire, génial. Il est nul ce mot, je pense pas d'autre. Donc Abba, Papa, vous voyez que Jésus, à Gethsémani, du plus profond de nos angoisses, du plus profond d'une histoire où la haine fait rage, il est resté relié à son Père. Il a dit Abba, Père. Et donc nous, il nous demande juste une chose, c'est de rester relié à lui qui dit Abba Père. Comme ça, on va apprendre à dire Abba Père avec l'esprit de Jésus, même quand notre monde n'a pas l'air très en forme. Pour ouvrir un chemin de bénédiction pour le monde. Et puis la deuxième phrase que j'ai choisie, c'est « Heureux les pauvres dans l'esprit, le royaume de Dieu est à eux ». Voilà, je voudrais terminer sur le fait que ce chemin, c'est un chemin de béatitude. Et en fait, ici-bas, nous est déjà donné à goûter la joie du royaume, la joie des pauvres de cœur, qui est une joie réelle, surabondante, qui n'est pas la joie de ce monde. Donc ce n'est pas la joie du Club Med du tout, comme type de traversée. Mais c'est une joie, c'est la joie de Jean-Paul II, la joie de Mère Teresa, la joie de Charles de Foucault, la joie de tous nos amis qu'on a envie de suivre à notre manière, qui est unique. Heureux les pauvres de cœur, parce qu'ils recevront de l'Esprit Saint d'être conduits dans leur terre promise et qui seront des sources aussi dans ce monde qui en a fort besoin.
Merci beaucoup, chère Agnès, pour ce bref, les danses de vie spirituelle. Est-ce qu'il y a une autre question? Une ou l'autre, on peut commencer par l'autre.
Étienne?
Ouais, mais donc, vous parlez beaucoup de vie animée par l'esprit, et après vous parlez de la grâce, mais donc, est-ce qu'il y a une possibilité de distinguer entre être animé par la grâce de Dieu et être animé par l'Esprit de Dieu?
C'est une question pour le Père Urfels, hein. Alors, est-ce qu'il y a une différence? En vrai, je voulais te répondre à cette question. Franchement, là, je suis trop sur le terrain. Si
tu veux poser la question, c'est y répondre. Hein. Ouais. C'est... L'Esprit Saint, c'est d'abord une personne divine, mais c'est ce qu'on appelle la gratia in creata, qui est l'Esprit Saint, mais c'est effectivement étonnant, c'est qu'en Dieu, l'Esprit, c'est en Dieu celui qui est tourné vers l'extérieur, s'il y avait un extérieur, avant même la création. Donc il réussit à être don, sans même donataire, sans même donataire humain. Mais alors quand il est donné à un homme, par exemple par le baptême, bien évidemment, l'esprit adapte notre humanité à le recevoir. Ben ça, c'est ce qu'on appelle la gratia créateur. Donc, nous ne possédons pas l'Esprit Saint sans avoir la grâce, avoir des grâces. Enfin, la grâce sanctifiante, c'est avoir l'Esprit Saint, mais avoir l'Esprit Saint, on n'a pas l'Esprit Saint sans la grâce. Donc, les deux vont complètement de pair. Hein. Qu'est-ce que c'était que là bon, si vous avez compris, ça, c'est une manière, de leur parler de la même, du même dynamisme.
En fait, moi, ce que je trouve beau, justement, de prendre cette question avec l'Esprit Saint, c'est que c'est une personne. Et donc, là, en tout cas, du coup, en spiritualité, ça nous aide parce que c'est une personne avec qui je suis en relation, à qui je m'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça plus... quand on le vit, je trouve ça plus facile de dire « Viens, Esprit Saint, etc. » Moi, je prie pas la grâce créée, quoi. Enfin, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me stimule plus spirituellement d'être en alliance avec l'Esprit, qui est cette personne don qui vient, qui me meut, qui me transforme. C'est l'œuvre de la grâce. Mais voilà.
Y a-t-il une autre question ? Sinon, nous avons l'habitude de terminer par des compis. Je ne sais pas si Agnès, vous avez encore un peu de temps, si vous voulez prier avec nous.
Très bien, ouais, super.